une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent le réel? Territoire occupé. Manifestation.
Vous écoutez Billets d'Afrique. Nous sommes fin novembre 2023. Je vous propose une fois de plus de regarder l'état du monde avec un angle décolonial. Enfin, regarder l'état du monde à la radio, c'est une formule, puisqu'il n'y a que le son. Regardons donc avec les oreilles. Je suis absolument convaincue que toute forme de révolution de notre monde passera par une justice sociale entre les pays occidentaux et ceux dits du Sud. Ces derniers sont les grands perdants de l'histoire moderne, du partage des richesses, et de l'histoire avec un grand H. Dans l'actualité d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Les élections se préparent à Madagascar. L'armée malienne reprend la ville de Kidal. À quel prix et pourquoi? La guerre en Ukraine continue. Le sud du Liban est bombardé. Et la mort se porte bien. Il faut être honnête, les sujets de réjouissance sont peu nombreux. En venant pour faire cette émission, je croise un vieux monsieur qui, l'air tranquille, pousse les feuilles mortes du bas-côté de la route en imitant le vent avec une souffleuse électrique. Du pétrole donc, parce que la nature ne va pas assez vite. C'est sans oublier les merveilleuses émissions de télé-réalité qu'on nous propose ou de jet-ski en villa privée. On nous arrose d'un modèle économique dégueulasse, de fantasmes dont personne ne voudrait mais qui finissent par faire rêver quand même parce qu'il y a du soleil, parce que la vie a l'air facile et parce qu'on est un peu meilleure ambiance que Valou au micro qui nous rabâche les mêmes histoires de meurtres et d'histoires coloniales. C'est sûr, nous avons face à nous deux options. Petit 1, se boucher les oreilles et croire à son bonheur très très fort. On pourrait tout ignorer, on pourrait se dire que de toute façon, les gens vont continuer à souffrir, qu'on s'en veuille ou pas, que la forêt continuera à brûler, qu'on fasse attention à l'eau du robinet ou pas. Alors autant y aller franchement et soyons heureux. Je vois bien cette option. La deuxième option que je propose est bien moins sympathique, mais je pense beaucoup plus nécessaire. Regardez l'état du monde dans lequel il est. Se demander ensemble si on n'a pas une part de responsabilité et peut-être espérer que par notre prise de conscience et les liens que nous tisserons autour de ces bases, le monde pourrait changer parce qu'il deviendrait plus juste, plus équitable. C'est un pari. Je comprends que tout le monde ne le fasse pas, mais je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir à l'immense majorité des gens qui ont entre leurs mains ici en France des tonnes de privilèges et sont bien contents d'allumer l'interrupteur, de trouver de la lumière au plafond et n'ont pas très très envie de savoir d'où vient tout ça.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme.
Dans l'actualité donc, peu de motifs de joie, c'est vrai. Vous vous dites sûrement que vous en avez déjà trop entendu. Et je suis désolée, je vais en remettre une petite couche. Et oui, il y a malheureusement toujours l'affreuse répression en Palestine, où meurtres, massacres, bombardements se succèdent sans que personne ne semble pouvoir y faire quelque chose. Ah oui, l'ONU a enfin prononcé une résolution. Si Israël respectait les résolutions de l'ONU, ça fait longtemps que la colonisation serait arrêtée en Palestine. L'armée d'occupation tient sa partition. Elle perpétue des horreurs en les disant nécessaires, en parlant d'actions ciblées, formule que les médias français reprennent à tour de bras. Elle raconte de gros mensonges, comme l'idée que les soldats israéliens auraient aidé à sauver des bébés nés à l'hôpital Al-Shifa en ramenant des couveuses. Des couveuses qui sont toutes inutilisables, sans électricité bien sûr. Mais ce n'est sûrement pas le pire. On comprend petit à petit aujourd'hui que l'armée est prête à sacrifier un certain nombre des otages et la vie de tous ceux qui se mettront en travers de sa route. Depuis le monde entier, puissants et citoyens observent, commentent les drames innommables qui se déroulent. des gens qui sont endeuillés partout jusqu'à la nausée, des gens déplacés de force et contraints à aller survivre dans les dénuements le plus total, une situation dont personne ne voudrait, une situation tout à fait condamnable, des gens qui ont faim, qui ont peur et pire que tout, qui ont soif. Peut-on s'imaginer ça ? Peut-on s'imaginer ce que ça veut dire de ne plus avoir d'eau potable ? 70% de la population de Gaza, au jour d'aujourd'hui, n'a plus accès à l'eau potable. Mais que fait-on de ça ? Je suis plus révoltée que jamais et j'en veux à la terre entière de laisser faire cette terrible réalité. Mais c'est surtout à moi que j'en veux au fond. Et je suis morte de honte à la relecture des derniers mots d'un ami palestinien qui nous écrit « Vous n'avez pas besoin de drapeau palestinien pour nous aider. C'est votre système politique qu'il faut changer. » Et oui, ce mail m'a touchée parce qu'il avait tellement raison. C'est bien d'ici qu'a germé le colonialisme, la traite négrière, le nouveau visage des relations Nord-Sud qu'on peut appeler France-Afrique ou néocolonialisme, l'exploitation des ressources des pays pauvres par les compagnies occidentales, l'ingérence politique, l'externalisation des frontières, le soutien au régime qui nous arrange, etc. Bref, une machine bien huilée qui peut prétendre à avoir le beurre et l'argent du beurre, puisque si on résume le système mondialisé d'aujourd'hui, c'est petit 1, prendre au sud les ressources à bas coût pour entretenir notre mode de vie et notre économie. Petit 2, pour cela faire passer ces pays si riches en ressources pour des pays pauvres. Petit 3, y maintenir des systèmes politiques, disons, collaboratifs. Petit 4, pour que tout ça tienne ensemble, y avoir une présence militaire sur place permanente. Que l'on fera passer tour à tour pour de la collaboration, de la formation. Et dans le même temps, y avoir des accords économiques à notre avantage, voire même, dans certains cas, une monnaie.
Un pour le sang, deux pour l'acier, et la France-Afrique à autopsier. Heure du décès, le plus tôt serait le mieux, cause du décès, ça nous importe peu.
Pour illustrer ce que je viens de dire, si vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, vous trouverez un pays pauvre par rapport à la France, qui produit l'essentiel du cacao que nous consommons, dont les gouvernements sont tout à fait camarades, Alassane Ouattara étant le grand ami d'Emmanuel Macron, mais de Nicolas Sarkozy, tout autant que de François Hollande. Et il peut rester au pouvoir sans être critiqué, justement parce qu'il est ce bon ami. Vous trouverez comme langue officielle le français, comme monnaie le franc CFA. Et si des Sénégalais s'aventuraient à vouloir venir vivre en France pour avoir une vie meilleure, ils seraient des clandestins, des migrants, sûrement pas des expatriés. La Côte d'Ivoire compte un grand nombre d'expatriés français qui mènent là-bas une vie de tout bas, bien riche, avec des maisons climatisées, des chauffeurs, des gardiens. Et bien sûr, toute leur sécurité est assurée par une présence permanente des militaires français, en grand nombre. Puisqu'en 2022, il y avait 4000 bidas. Peut-on imaginer 3 secondes, 4000 militaires sénégalais en poste, je ne sais pas, moi, à côté de Clermont-Ferrand, de façon permanente, pour assurer la sécurité des Sénégalais, dit-on ? Non seulement on n'y croirait pas, mais en plus on verrait cette présence comme une ingérence possible. Une force militaire étrangère, en France, ça ne s'est jamais vu. Pourtant, la France se permet d'être présente dans beaucoup trop d'anciennes colonies.
Un pour le sang, deux pour l'acier. Et la France-Afrique à autopsier. Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès, ça nous importe peu.
Et je ne parle pas là de ce que l'État français appelle les forces de souveraineté, qui sont des groupes de militaires en poste dans les colonies actuelles, par exemple la Réunion, la Guyane, la Kanaky. Non, ces militaires en poste au Sénégal sont appelés forces de présence, et c'est sans compter les plus de 4000 bidas au secours des actions de l'OTAN et de l'ONU, les fameux casques bleus. Non, ça c'est juste un déploiement de militaires français. 4000 au Sénégal, 1500 à Djibouti. J'ai fait une petite addition en préparant cette émission. Et si on considère toutes les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures de l'armée française, il y a déjà plus de 15 000 militaires qui agissent hors du territoire de la France. Il y en a 13 500 sur le territoire de la France. Faisons un résumé. Il y a plus de militaires qui sont à l'extérieur qu'à l'intérieur. Imaginons ça d'un autre pays. Imaginons ça d'un pays africain. Imaginons ça d'un pays du Moyen-Orient. Et oui, l'armée française est encore aujourd'hui une force coloniale. Parce que tous les dirigeants de notre beau pays savent que sans cette présence militaire, il n'est point de système qui tienne. Emmanuel Macron a beau répéter que la France-Afrique, c'est fini, il sait très bien que si demain les relations néocoloniales arrivaient à leur terme, il n'y aurait plus ni gaz, ni électricité, ni pétrole, ni chocolat, ni café, ni riz, ni plus grand-chose en fait. Nous aurions le lait des vaches, les châtaignes d'Ardèche, le blé français. Mais au bout d'un moment, ce sera difficile de faire rouler nos voitures avec du pain au fromage, non ?
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme. Vestiges du colonialisme.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
Et la France-Afrique à autopsie.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Cause du décès,
ça nous importe peu.
Voilà. Les bases sont posées, jetées en vrac. J'affirme donc ceci, la France est encore une puissance coloniale, et ce grâce à une présence militaire à l'extérieur de ses frontières. Cet empire colonial qui ne veut pas mourir, pour reprendre le titre de l'ouvrage collectif sur la France-Afrique, se perpétue avec notre complicité. Et oui, en l'absence de mouvements antimilitaristes, le budget de l'armée va grandissant, et la plupart de ce budget finance les fameuses OPEX, opérations extérieures. CQFD, à force de ne pas s'élever contre le va-t-en-guerre ambiant, nous voilà plongés dans des discours sécuritaires, bardés d'opérations sentinelles, assaillis de publicités de l'armée française pour aller se rendre utile et mouillés dans les pires prises de pouvoir douteuses sur le continent africain. L'État français n'a pas besoin de se retourner vers le passé lointain pour avoir les mains pleines de sang. En Guinée-Conakry, il y a 2 ans, le soutien à Alpha Condé et sa répression sanglante de toutes les oppositions au moment des élections a fait plus de 70 morts. Au Tchad, en 2020, l'adoubement du fils du dictateur Idriss Déby après sa mort, Macron s'est rendu même sur place pour légitimer la prise de pouvoir par le fils. La cérémonie est digne des années 50. Au Gabon, jusqu'au mois d'août, les liens avec la famille Bongo, dont je vous ai déjà parlé. Au Togo, la répression par l'armée française au moment des révoltes populaires, quand Eyadema, dictateur dinosaure, est enfin mouru, son fils a tenté, comme dans une monarchie, d'arriver à la tête du pays, une prise de pouvoir lourdement appuyée par la France, qui s'est rendue coupable de terribles exactions. Certaines victimes parlent de viols collectifs de la part des militaires français. Crimes de guerre, crimes de chair également en Centrafrique, il y a moins de 10 ans, où les militaires, pendant l'opération Sangaris, ont obligé des enfants à se prostituer en échange de l'aide humanitaire et ont énormément accentué les tensions entre chrétiens et musulmans. On a même pu voir, dans un silence terrible de les médias français, des manifestations qui ont eu lieu là-bas à Bangui pour dire aux militaires français « Partez avant que vous veniez, on vivait bien ensemble ». Du sang sur les mains donc, encore et encore. La complicité avec Blaise Compaoré pour qu'il échappe à la justice de son pays, avec Macky Sall qui vole les Sénégalais. Nous pourrions faire la liste pendant de longues minutes. Ah oui, alors on peut crier au sentiment anti-France, hein ? N'est-il pas justifié ? J'admire d'ailleurs les nuances que s'acharnent à poser les intellectuels et politologues africains, enfin quand on leur laisse la parole, anti-France et non pas anti-français. C'est contre l'État français et ses intérêts sur le continent africain que légitimement des citoyens de nombreux pays africains ont la rage. Du sang sur les mains et à force de ne rien dire, le sang sur les mains des troufions en uniforme finira peut-être par nous tacher aussi.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Ce fut une révolte légitime des militaires contre les derniers vestiges du colonialisme. Vestiges du colonialisme.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
Et la France-Afrique à autopsie.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Du décès,
ça nous importe peu.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Cause du décès,
ça nous importe peu.
Que dit l'autopsie avant d'éparpiller les cendres? Au monde si nombreux, qu'il y a de comptes à rendre. Scalpel, bistouri, le légiste est formel. Ce système crapuleux a du plomb dans l'aile. Qui a une dette envers qui? Qui place des tortionnaires à la tête de nos pays? Qui s'enrichit de la crasse de cette vieille dépouille que l'on a incisée du cou jusqu'aux couilles? quelques sales races de barbouzes qui doivent se sentir bien seuls, sans risquer de se prendre des coups de calibre 12 dans la gueule. Plus de rampe pétrolière, plus de médecins sans frontières, l'aventure s'arrête là. Chirac, Focard, Pasqua, Mitterrand, et la liste est longue comme le temps qu'on réalise.
Que dit l'autopsie, tous les empires tombent. Que dit l'Elysée, attendez une seconde. La DGSE est sur les dents, elle revoit le plan des prochaines livraisons d'armement. Depuis qu'une poignée de régimes récalcitrants marche armée sur la tempe des vieux pères blancs. Toutes les races possibles de mercenaires convergent vers Kinshasa, Conakry, Abidjan. Les suceurs de sang jurent fidélité à Total Accord, Bouygues, Bolloré. Le fond de l'air est luxembourgeois, le cachet du Quai d'Orsay faisant foi.
Un pour le sang, deux pour l'acier, et la France-Afrique à autopsier. Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès, ça nous importe peu. Un pour le sang, deux pour l'acier.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter.
Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès,
ça nous importe peu.
Que dit l'autopsie, docteur? Y'a encore du sang sur le bistouri. Le traitement bestial retrace l'historique. Bilan catastrophique pour regagner Milan, Madrid ou Paris. Combien de meurtres en silence dans le corps de l'avarice? Les artères sont bouchées et le flux migratoire ne passera pas les rochers. Quand dans la couenne, douane et militaires y enterrent toute illusion d'exister dignement sur cette terre. Eux qui s'en remettent au hasard de l'exil peuvent te détailler au rasoir ces terres d'asile. Et tous les doutes s'envolent dans la soute pour s'échouer sur des barbelés ou sur une plage comme du mazout.
Que dit l'autopsie? L'enfer répondait en ville, des planches boueuses posées délimitent le bidonville. Retour arrière, des crémaillères en solitaire à Nanterre. Sur le pavé, les proprios jetaient leur misère. L'activité reste salutaire pour ne pas se perdre, quitte à s'arracher sur la pierre dans une église en colère. Saint-Bernard protège peu face aux boucliers armés. Les promesses creuses montrent une sortie fléchée. Famille brûlée dans des hôtels, aveugles et sourds. Oxygène plombé, peinture malade dans le séjour. Le parcours reste rude pour ces visages sans nom, invités par la grande porte et jetés par celle du fond.
Un pour le sang, deux pour l'acier,
et la France-Afrique à autopsier.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Cause du décès,
ça nous importe peu.
Un pour le sang, deux pour l'acier.
Ils ont voulu me corrompre, m'acheter.
Heure du décès,
le plus tôt serait le mieux.
Cause du décès,
ça nous importe peu.
La révolution n'est pas un grand espace de Swamp Gandhi au Gambela. Il ne faut pas exister les rangs de l'OCDR, les aventuriers, les imposteurs, les abus opportunistes, situationnistes. Ils sont incapables de toute conséquence. C'est de leur rang que se dégagent les géants féodaux, les triomphalistes et les phraséologues platement ambitieux et exerçant le pouvoir comme un droit.
Si vous vous demandez quel était l'excellent titre que nous venons d'écouter, ça s'appelle L'Autopsie. Le groupe, c'est bien sûr La Rumeur, Inégalable. Dans la deuxième partie de cet épisode de Billets d'Afrique, qu'on pourrait aisément appeler Les Bidas et l'Empire, je vous propose la lecture d'un texte paru sur le site de Survie, site dont je vous parle à chaque émission et que je vous invite franchement à aller voir. Survie, c'est l'association qui lutte contre la France-Afrique depuis des décennies et qui produit une quantité de contenu passionnant, intéressant, pointu et bien documenté. Ce texte est paru à la suite de la mort du jeune homme qui s'appelle Naël, qui a été tué d'une balle dans la bouche par un policier. Au moment où j'enregistre, ce policier a été remis en liberté hier. Ce texte propose de faire le lien entre les politiques coloniales et les répressions des corps vivant dans les quartiers populaires. Structurer la police coloniale. En mars 1667, le roi de France, Louis XIV, signait un édit visant à réformer l'institution policière jusqu'alors relativement dispersée. La police, déclare le décret, consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer les désordres et procurer l'abondance. Chargé de sécuriser les commerces lucratifs et de réprimer les écrits et comportements jugés séditieux, le nouveau lieutenant de police de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, pouvait désormais, à tout moment, faire appel à l'armée et procéder à des arrestations sans jugement. L'homme derrière l'édit de 1667 est Jean-Baptiste Colbert, ardent défenseur du mercantilisme, courant économique basé sur la stricte réglementation étatique du commerce ainsi que la maximisation des exportations. Principal ministre d'État sous Louis XIV, en charge de l'industrie et du commerce, Colbert supervisa l'expansion de l'empire colonial français en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, fondant en 1664 la Compagnie française des Indes orientales. Il rédigera plus tard la première version du Code noir, décret régissant le statut juridique des captifs asservis africains jusqu'en 1848. Le texte prévoyait notamment des mesures punitives en cas de marronnage. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur l'épaule. S'il récidive un autre mois, pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé. Et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. Soucieuse de préserver les intérêts des capitalistes et colonialistes fortunés au sein de son empire, la monarchie française sous Louis XVI prolongea le contrôle policier des Africains et Afro-descendants. Après deux premiers textes de loi en 1716 et 1738, le ministre de la Marine, Antoine de Sartine, ancien lieutenant de Paris, institua la police des Noirs en 1777. Contrairement au Code noir, cet édit de 32 articles prescrivit des actions fondées non sur le statut d'esclave, mais sur la couleur de la peau. Ouvrez les guillemets. Surtout dans la capitale, peut-on lire, les Noirs y causent des plus grands désordres, et lorsqu'ils retournent dans les colonies, ils y portent l'esprit d'indépendance et d'indocilité, et y deviennent plus nuisibles qu'utiles. L'article 3 prévoyait ainsi l'arrestation et la déportation de toute personne noire qui serait introduite en France. Au début du XIXe siècle, le souverain français Napoléon Bonaparte, qui rétablit l'esclavage moins de 10 ans après son abolition, suite à la Révolution haïtienne, étendit davantage le contrôle des Noirs en France. Aussi, il chargea en 1807 et 1808 le ministre de la Police, Joseph Fouché, l'architecte de la police française moderne, de mener un recensement national des Noirs, mulâtres et autres personnes de couleur, utilisant la même dénomination que de Sardine pour la police des Noirs. Cette classification s'inspirait directement des théories raciales de Moreau de Saint-Méry qui plaçait les colons blancs comme l'aristocratie de l'épiderme. Favorable à l'esclavage par goût du commerce, Fouché œuvra à la généralisation de méthodes complexes d'espionnage sur les menaces extérieures comme à Bordeaux qui fut l'un des ports français s'étant le plus enrichi de la traite transatlantique. L'invasion d'Alger en 1830, puis l'engouement suscité par la conférence de Berlin en 1884-1885, virent la création d'un statut juridique spécifique aux « sujets coloniaux » dès les années 1880, et ce jusqu'au milieu des années 1940. Le Code de l'indigénat servit de cadre de contrôle des Africains, permettant la condamnation de tout élément jugé perturbateur pour manque de respect envers l'administration et ses fonctionnaires ou diffusion de bruits alarmants et mensongers. La prison, estimait alors le député et résident général de France en Tunisie, Étienne Flandin, ce n'est pas une peine pour les indigènes, mais une récompense, le suprême bonheur pour lui de vivre dans l'oisiveté. Administrer l'Empire. À mesure que les centres urbains se développèrent en Afrique, la circulation des personnes et des idées représenta une menace croissante pour l'administration coloniale. Basée sur celle de la métropole, les forces de police structurées apparurent essentielles pour sauvegarder les intérêts financiers de l'Empire. Le projet de construction du chemin de fer Congo-Océan, de 1921 à 1934, vit ainsi la capture d'innombrables jeunes hommes par ces nouvelles forces armées. Contraints à travailler sans protection, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux périrent. En Afrique occidentale française, le service de sécurité générale fut créé en 1918 dans un contexte de contestation croissante au sein de l'Empire. Plus de 100 000 Africains avaient été enrôlés dans l'armée française, souvent de force, pour participer à l'effort de guerre. Malgré les promesses d'amélioration de leurs conditions de vie, la majorité resta soumise à l'arbitraire colonial. Le service de contrôle et d'assistance en France des indigènes des colonies, agence de renseignement indépendante pilotée par le ministère des colonies, était à ce titre chargé de surveiller les activités politiques des Africains établis en France. Parmi les premiers fichiers figure le militant sénégalais Lamine Senghor. Arrivé à Paris en 1920, l'ancien tirailleur sénégalais, devenu facteur, fut surveillé de près par le CAI, le service de contrôle d'assistance, dès 1924, comme agitateur anticolonial et militant communiste et antimilitariste. Senghor avait en effet rejoint les rangs du Parti communiste français avant de s'en distancier en raison de l'intégration limitée des militants noirs. C'est ainsi qu'il fonda, en 1926, une structure distincte appelant à l'émancipation de l'Afrique, le Comité de défense de la race nègre, CDRN, qu'il représenta l'année suivante au congrès fondateur de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale à Bruxelles. Le discours de Senghor, relayé par de nombreux journaux étrangers, alerta les autorités françaises. Il y déclarait notamment « L'oppression impérialiste que nous appelons colonisation chez nous et que vous appelez impérialisme ici, c'est la même chose, camarades. Tout cela n'est que du capitalisme. C'est lui qui enfante l'impérialisme chez les peuples métropolitains. » À son retour en France, il fut arrêté pour propos outrageants à un agent de l'autorité. Jusqu'à sa mort, à la fin de l'année 1927, le militaire sénégalais se résigna à ne plus retourner au Sénégal, craignant d'y être arrêté et incarcéré dès son arrivée. Le milieu des années 1920 vit également la création par l'ancien administrateur colonial André-Pierre Godin du service d'assistance aux indigènes nord-africains, composé notamment d'une force de police appelée Brigade Nord-Africaine, la BNA. S'assurant de la stricte réglementation des Algériens en France, l'agence de surveillance prit l'habitude de contraindre les employeurs à licencier leurs salariés soupçonnés d'anticolonialisme. Bien que supprimée après la Seconde Guerre mondiale, l'unité reprit une seconde vie au milieu des années 1950 à travers la Brigade des agressions et violences, la BAV. À mesure que s'intensifia la guerre d'indépendance d'Algérie, les travailleurs nord-africains installés en France étaient systématiquement victimes d'arrestations abusives et de raids nocturnes. Des ordres coloniaux. Le début des années 1960 marqua le retour progressif en France de soldats et policiers mobilisés en Algérie. Parmi ceux-ci figuraient Maurice Papon, responsable de la déportation de plus de 1500 juifs sous le régime de Vichy, et la systématisation de la torture des militants du Front de Libération Nationale, FLN, dans l'Est algérien. Devenu préfet de la police de Paris en 1958, Papon créa le service de coordination des affaires algériennes, qui supervisa l'assassinat de centaines de manifestants pro-FLN, battus et jetés dans la Seine le 17 octobre 1961. En besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction d'après-guerre, l'État français avait incité de nombreux travailleurs africains à s'installer en France. Ces derniers étaient en général parqués dans des bidonvilles ou des HLM situés aux périphéries des métropoles. Le discours sécuritaire ambiant passa alors de la sauvegarde de l'Empire contre les agitateurs indigènes indisciplinés à la protection de la nation contre de dangereux criminels immigrés. Les méthodes policières répressives, quant à elles, perdurèrent. Au début des années 1970, Pierre Bolloté, ancien officier colonial en Indochine, puis en Algérie, fonda la Brigade Anticriminalité, la BAC, en région parisienne. Préfet de police de la Guadeloupe quelques années plus tôt, il mena la violente répression de la grève des travailleurs du 27 mai 1967. En Afrique, la naissance d'États nouvellement indépendants ne marquera pas la fin de l'obsession du contrôle. En 1959, le service de sécurité extérieure de la communauté fut créé pour maintenir des liens étroits entre les services de renseignement français et les unités de police locales dans les colonies africaines. Dernier directeur de la sécurité nationale en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, son fondateur, Pierre Le Fuel, mis en place dans la foulée le service de coopération technique internationale de police, unité composée principalement d'anciens officiers coloniaux chargés de former les nouvelles polices africaines. Le cas du Cameroun est tragiquement emblématique. À la même période que la guerre contre-insurrectionnelle menée en Algérie, les autorités françaises employèrent des méthodes de répression sanglantes, bombardements aériens, assassinats ciblés, internements de masse, manipulations psychologiques, qui, après l'indépendance formelle au Cameroun en 1960, mutèrent en méthode de gouvernement du nouveau régime pro-français d'Amadou Ahidjo. Au Sénégal, Jean Collin, ancien fonctionnaire de l'appareil colonial français, cristallisa les tensions en sa qualité de ministre de l'Intérieur sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, son oncle par alliance. Fin stratège, Collin avait la haute main sur le fonctionnement des prisons et supervisait de près les forces de police, dont des unités aux méthodes violentes comme le groupement mobile d'intervention. Sous l'Union progressiste sénégalaise, parti unique dirigé par le président Senghor, la répression des mouvements d'opposition, pilotée par Collin, fut marquée par des campagnes d'arrestation massives, comme dans l'affaire Ndjef Zarbi de 1974 à 1975 et des assassinats déguisés de militants, notamment celui d'Omar Blondin Diop en 1973. Incarnant la continuité de la police coloniale, un sulfureux commissaire français du nom d'André Castorel supervisait des interminables séances de torture des dissidents du régime, plongeant leurs têtes dans des bassines d'eau jusqu'à perdre haleine, électrocutant leurs parties sensibles, testicules, oreilles, langues, déchirant leur anus avec le goulot de bouteille. La culture de la répression policière demeure centrale dans le rapport qu'entretiennent nombre d'États africains à la dissidence. Les rassemblements publics appelant à l'amélioration des conditions de vie et s'opposant à l'accroissement des inégalités, l'arbitraire politique et les arrangements néocoloniaux sont encore souvent dispersés dans la violence. Les réflexes autoritaires déployés dans la gestion de la crise du Covid-19 ont ainsi amplifié la méfiance populaire envers les autorités. Pour autant, un autre mode de gestion est possible, estime une centaine d'intellectuels africains dans une récente lettre ouverte adressée aux dirigeants du continent africain. Ouvrez les guillemets. Il s'agit pour l'Afrique de retrouver la liberté intellectuelle et la capacité de créer, sans lesquelles aucune souveraineté n'est envisageable, de rompre avec la sous-traitance de nos prérogatives souveraines, de penser nos institutions en fonction de nos communes singularités et de ce que nous avons. Voilà pour ce texte, paru encore une fois sur le site de l'association Survie. Moi je vous laisse, il est l'heure, je crois, de passer à autre chose, enfin pour ce soir. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode de Billets d'Afrique. D'ici là, portez-vous bien et soyez vigilants à l'air du temps.